Bonsoir à tous, c'est le rendez-vous sur France Culture et ce soir, deux plateaux pour des invités liés par une certaine idée de l'itinéraire. 19h15, plateau centripète avec Éric Hazan qui signe une révolution française comme un écho à la réédition de son invention de Paris, soit deux essais traversés par la couleur rouge. Manu Farine.
Récit discontinu d'une ville par ses enceintes franchies pour un portrait autoportrait placé sous le signe du champ de bataille et de la résistance.
19h30, session souveraine avec Michel Ndegeo Cello. C'est l'invité musical de Mathieu Conquet.
La bassiste et chanteuse revisite le répertoire de Nina Simone avec classe et un petit peu de Saint-Joseph. Elle jouera deux titres tout à l'heure en direct.
Vous avez le droit de dire le nom d'un vin comme ça?
Oui, c'est pas une marque. C'est...
D'accord, très bien. 19h35, vous savez quelle marque de cigarette on a aussi? D'accord. 19h35, plateau centrifuge avec Alexandre Lacroix qui publie Voyage au centre de Paris, un roman au bord de l'autofiction amoureuse qui tente l'aventure littéraire d'écrire Paris pour, je cite, peut-être le conserver précieusement dans son écrin comme un legs pour les générations futures. Benoît Lagan.
Un voyage horizontal et vertical des catacombes au toit de Paris pour un récit géographique construit aussi avec un certain sens de la géométrie.
Mais tout d'abord, on ouvre avec l'actualité culturelle. C'est le journal de la culture, dossier hommage ce soir avec Xavier Martinet, puis des brèves de Benoît Lagan.
Je crois que si j'étais un film, je serais moins ado, je serais Pierrot le Fou. C'est-à-dire que c'est le film de mon adolescence. C'est le film... je rêvais que toutes les amoureuses tombent amoureuses du film. D'ailleurs, je les ai amenées voir le film hein, quand j'avais 14 ans. Hein, si elles n'aimaient pas le film, c'était fini. Hein.
Bonsoir Xavier Martinet.
Bonsoir Laurent.
On l'a appris trop tard pour l'évoquer hier soir, c'est le décès du cinéaste Jean-Henri Roger qu'on vient d'entendre à l'âge de 63 ans. La disparition d'un agitateur pour un cinéma révolutionnaire et critique, un homme discret et qui a pourtant marqué cette époque.
Oui, il a marqué cette époque plus qu'on ne le dirait, et d'abord peut-être à l'écran avec une présence physique solide et légère à la fois, avec ce demi-sourire qui traversait tout le temps son large visage recouvert d'une chevelure ondulée, et puis une solidité surtout due à la cohérence de son parcours plutôt éclectique en termes de carrière, 6 films comme réalisateur, 8 comme acteur et 40 années passées comme professeur à l'université de Vincennes, où il avait d'ailleurs cofondé le département cinéma, pour un parcours en fait indissociable des années 68, où le cinéma se voulait donc plus qu'un divertissement et moins qu'une œuvre, disons, divinement artistique, ça se voulait une machine critique. Alors, de là, des films qui vont de la dénonciation du mode de vie industriel, avec British Sons, qui a été co-signé avec Jean-Luc Godard, à la critique de la politique contemporaine déguisée, pourrait-on dire, en inventaire de 1968, là c'était Code 68 en 2005, en passant par la réhabilitation des personnages secondaires, là c'était le fameux film Neige en 1981, un cinéaste pourrait-on dire toujours en implosion par rapport à l'institution dans laquelle il s'insère. Le réalisateur et professeur à Paris 8, Serge Leperron, l'avait rencontré en 1970, il parle selon les termes de l'époque d'un agitateur d'idées et de formes.
Ça a toujours été quand même quelque chose qui a compté pour Jean-Henri. Il s'agissait pas d'écraser le cinéma sous la politique, pas plus qu'il s'agissait d'écraser la politique sous le cinéma. C'est-à-dire, il pensait qu'on pouvait pas faire du cinéma révolutionnaire comme on faisait du cinéma bourgeois, comme on disait à l'époque. Hein. C'est-à-dire, comme Costa-Gavras, pour aller vite, quoi, hein, qui reprenait les codes du cinéma américain, mais il fallait aussi changer les codes du cinéma. Et donc, au département cinéma, c'est un petit peu ces idées-là, effectivement, qu'il a développées. Ce que lui et Godard appelaient des films tableaux noirs, par exemple, quoi. C'est-à-dire comment changer le cinéma.
Changer le cinéma et conserver la main sur ses moyens avec cet engagement professionnel également très critique.
Oui, d'abord un engagement cinématographique. Il a été directeur de l'ACID, donc l'Association des cinéastes indépendants, mais aussi de deux autres fédérations. Alors, non seulement en dénonçant, d'une part, l'étranglement des films moyen budget par les gros producteurs, ça c'est classique, mais aussi, là, en revivifiant le réseau, en s'alliant avec les exploitants indépendants qui, selon lui, étaient une des clés du système, mais un engagement aussi politique auprès des sans-papiers, bien sûr. Alors, ça va du mouvement des cinéastes qui a commencé à Cannes en 1997 avec cette loi sur la complicité d'aide aux sans-papiers, puis en 2007, en 2010, et avec là encore des films qui ne sont pas seulement des revendications humanitaires, mais qui dénoncent aussi, parallèlement, l'hypocrisie de l'exploitation économique des sans-papiers en France. Un double engagement, donc, un double parallélisme aussi, et une double amitié avec Jean-Luc Godard, d'un côté, disons, pour le style cinématographique, et puis avec Robert Guédiguian pour la lutte sociale, pourrait-on dire. Robert Guédiguian, comme lui, marseillais, qui avait d'ailleurs co-dirigé avec lui la CID à l'époque et qui l'a fait jouer dans Les Neiges du Kilimandjaro en 2011, il n'y a pas si longtemps. Donc c'était la dernière prestation de Jean-Henri Roger comme acteur, où il jouait justement celui qu'on sort de la scène, c'est-à-dire un licencié.
Je crois qu'il aurait été des prochains combats, c'est-à-dire qu'il pensait que le combat n'était jamais terminé. Bien sûr que Jean-Henri était un grand militant, mais c'était un grand festoyeur aussi, je ne sais pas comment dire. C'était rigoriste dans les idées, mais c'était un tempérament d'une grande vitalité. Voilà, et de faire jouer à Jean-Henri, avec le poids qu'il avait d'ailleurs, le corps qu'il avait, le visage qu'il avait, de lui faire jouer un vieil ouvrier licencié, je suis très très content qu'il me l'ait demandé et que je l'ai fait. Parce que ça reste la dernière image que j'ai de lui. J'ai revu après, bien sûr, mais la dernière image au cinéma. D'ailleurs, il faisait confiance au cinéma, il faisait confiance au plan, il faisait confiance aux gens. Je vous dis, pour moi, c'est un modèle de générosité. Je m'efforce d'être aussi généreux que lui.
Générosité, donc, qui pourrait être cette autre phase de l'éclectisme pour celui qui avait commencé en refusant finalement la notion d'auteur, parce que le cinéma devait rimer avec critique, et celui dont l'ancien directeur des Cahiers du cinéma, aujourd'hui Jean-Louis Comolli, écrit que c'était le plus fou de nous tous, face cinéma et face politique.
I was dancing with my darling to the Tennessee waltz, when an old friend I happened to see.
Et pour ouvrir les brèves, Benoît, deux autres disparitions.
Et notamment celle de la chanteuse américaine Patti Page, que l'on entend actuellement. Elle avait 85 ans, connue notamment pour sa version de la chanson Tennessee Waltz. Cette chanson fut un tel succès qu'elle est même devenue depuis l'un des deux hymnes de l'État du Tennessee.
Et en Roumanie, c'est un cinéaste qui vient de s'éteindre.
Oui, Sergio Nicolaescu, le réalisateur le plus prolifique du cinéma roumain, vient de mourir, connu notamment pour Les Das en 1966 ou encore Michel Le Brave en 1979. Le cinéaste qui avait 82 ans était aussi sénateur depuis la Révolution de 1989.
Fusion dans l'édition.
Oui, dans un communiqué diffusé cet après-midi, les maisons d'édition Actes Sud et Paillot et Rivage ont annoncé la fusion de leurs activités. Les deux maisons déclarent toutefois, je cite, que l'indépendance éditoriale des deux maisons restera totale.
Et pendant ce temps-là, à l'Élysée.
Un arrêté publié aujourd'hui vient d'officialiser la nomination du journaliste Claude Sérillon, ex-présentateur du journal de 20h de France 2. Il est nommé auprès du président de la République. On ne sait pas, en revanche, pour l'instant, quel rôle lui sera précisément attribué au sein du service communication de François Hollande.
Et pour commencer, ou plutôt pour terminer, la petite histoire du jour.
Bien, ce soir, une petite histoire d'Agingras, où comment, à quelques semaines de la sortie au cinéma en France de la version hollywoodienne de la comédie musicale Les Misérables, des adolescents américains qui ne connaissent pas forcément l'œuvre originale de Victor Hugo voient l'œuvre légèrement différemment. Je vous raconte. Tout commence donc dans les années 80, qu'un trio français crée une comédie musicale d'après l'œuvre de Victor Hugo. Rapidement disparu de la scène française, la comédie musicale devient un succès énorme outre-Manche, au point d'être la comédie musicale la plus exploitée à Londres. Reprise comme le veut la coutume à Broadway, à New York en 1987, voilà que le réalisateur britannique Tom Hooper, inconnu pour son discours d'un roi multi-oscarisé, décide de l'adapter au cinéma avec au casting la Catwoman Anne Hathaway, le Robin des Bois Russell Crowe et le Wolverine de X-Men Hugh Jackman. Des références pour ados d'aujourd'hui, vous savez, ce n'est à la fin des années 90.
On ne les connaît pas. Et alors, comment réagissent ces adolescents à cette version 2013?
Eh bien, ils trouvent Hugh Jackman, alias Jean Valjean, trop craquant, trop beau et trop fort, selon David Haglund du site Slate.com. Les ados l'apprécient parce qu'ils partagent des traits communs avec des célèbres super-héros américains. Pour Slate, les échos sont évidents. Outre l'identité secrète, l'ennemi juré, la confrontation épique, Valjean, comme Batman, a des pouvoirs physiques hors du commun puisqu'il dispose de la force de quatre hommes réunis. Bref, Valjean annoncé Batman, la preuve par Hollywood, en salle en France, mi-février.
I'm cold. Would you let me stay here for tonight? I know who you are. You're Jean Valjean.
Ça donne super envie.
Ah oui.
Super pouvoir.
On va courir au cinéma.
Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre de la part de nos invités, Eric Hazan, Alexandre Lacroix? Eric Hazan, peut-être la figure de Jean-Henri Roger? J'imagine que vous l'avez croisé?
Non.
Non?
Non.
Vous le connaissiez?
Je vois bien qui c'est, oui. Je ne peux pas dire que c'est un cinéaste avec lequel je sois très familier, non.
Vous êtes familier plutôt de quel genre de cinéma? Ou de cinéaste?
À vrai dire... Je dois l'avouer avec grande honte, je ne vais plus beaucoup au cinéma. C'est terrible à dire, mais ça.
Mais. C'est pas forcément terrible à dire, vous devez bien savoir pourquoi.
Pas très bien. Peut-être la flemme, tout simplement. Non, Godard reste pour moi une référence totale. Oui.
Je vous ai vu sourire aussi pour la fusion des maisons d'édition avec l'indépendance sauvegardée. Oui.
Ça, c'est
vous-même éditeur.
Il y a une espèce de discours qui est commun à toutes les fusions, c'est que les acquéreurs, en l'occurrence certainement Actes Sud, déclarent garder avoir rien de plus précieux que l'indépendance de la maison qu'ils achètent, et ils veulent lui permettre simplement de se développer de façon plus harmonieuse sans jamais interférer avec quoi que ce soit.
C'est généreux.
C'est une espèce, ça pourrait être préenregistré, c'est toujours le cas, je l'ai eu moi-même. Je connais ça d'expérience personnelle lorsque les maisons d'édition qui portent mon nom ont été rachetées par Hachette.
Les éditions Azan.
Oui, c'est ça. Mais enfin, cette fusion-acquisition, elle arrive à peu près au même moment que, enfin, quelques semaines après l'achat de Flammarion par Gallimard. Mm-hmm. Et encore plus important, l'achat de Penguin par Random House, c'est énorme, ça, c'est gigantesque. Et dans Penguin, il y avait beaucoup de maisons d'édition, dont certaines produisaient ce qu'il y a de mieux en langue anglaise, et le pire est à craindre.
Quels sont les symptômes donc, que l'on voit avec ces regroupements pour vous ?
Je pense que les financiers qui dirigent ces grands groupes n'ont pas un retour sur investissement suffisant avec la vente des livres. Ils n'arrivent pas aux 15-20% qu'on leur demande. Ils sont à 3-4-5%. Par conséquent, les fusions-acquisitions permettent. Comment faire pour améliorer le rendement ? Publier des best-sellers ? C'est pas toujours facile. Et rien n'est plus triste, au fond, qu'un best-seller qui ne se vend pas. Alors, pour améliorer la rentabilité, la seule façon de faire efficace, c'est de licencier. Et les fusions-acquisitions permettent de licencier.
Comment vous avez réussi à maintenir l'indépendance des éditions de la Fabrique, dont vous êtes donc le directeur, Éric Azan ?
En bricolant. On est trois dans 40 mètres carrés. Les sommes en jeu sont pas du même. On n'est pas dans les mêmes zéros que ces grands groupes. Le fossé s'élargit.
Oui, mais au vu de certains succès d'édition que vous avez eus, vous auriez pu vous agrandir et à ce moment-là, les ennuis auraient pu commencer.
Ah, sûrement. Sûrement. Mais avec retard, j'ai assimilé la grande leçon de Jérôme Lindon, l'ancien directeur des éditions de Minuit qui est mort il y a quelques années. Quand il a eu le Goncourt avec l'amende Duras, 1 million d'exemplaires vendus. Il est resté dans ses locaux de la rue Bernard-Palissy. Il n'a pas augmenté sa production. Et ses locaux sont loin d'être des locaux somptueux. Il a acheté une librairie. Voilà. Donc, je crois que contrôler la croissance quand ça va bien, c'est absolument indispensable si on veut rester indépendant.
Éric Azan, économiste.
19-20, le rendez-vous.
Rendez-vous.
C'est sur France Culture.
Plateau pavé avec vous, Éric Azan. Donc, pour un parcours qui passe par le FLN, la défense de la cause palestinienne, la chirurgie cardiovasculaire, notamment au Liban dans les années 70. Tout cela, c'était avant l'édition. Ce sera d'abord dans les pas de votre père aux éditions Azan, puis avec votre propre maison en 98, les éditions de la Fabrique, où vous publiez aujourd'hui Une Révolution française. Et dans le même temps, paraît au seuil la réédition illustrée, on y reviendra, cette fois de votre Invention de Paris, parue en 2002, donc 10 ans après. Anniversaire. Avant d'écrire sur Paris, vous avez d'abord publié sur Paris, aux éditions Azan, c'était le livre de François Loyer, Paris, 19e siècle, l'immeuble et la rue. Quelle lecture de Paris il y défendait et qu'est-ce que votre propre invention de Paris lui doit ?
À lui et aux autres auteurs dont j'ai publié les livres sur Paris, c'est certainement eux qui m'ont appris le plus de choses. Je pense à Bablon, je pense à Pierre Pinon, je pense à Jean-Louis Cohen. On a publié aux éditions Azan les meilleurs auteurs sur Paris. Et quand on publie un livre avec un auteur, il vous apprend beaucoup de choses. Quand ce sont des gens de ce niveau-là, il y a beaucoup de choses à en tirer. Je crois que Loyer, par exemple, je dirais que quand on a lu son livre, on ne regarde plus les rues de Paris avec le même œil. On date instinctivement les immeubles. On dit ça, c'est du 1880 parce que ça a l'air du Haussmann, mais c'est pas du Haussmann parce qu'il y a plein de balcons, donc c'est du 1880. Ça, euh, c'est, ça pourrait être Art Nouveau, mais non. C'est probablement du pseudo Art Nouveau, bien plus récent que ça. On a un décodage de toutes les rues que lui a vraiment. Parce que c'est un savant et un savant qui a un œil. Parce que souvent, ça ne va pas de pair. Hein. Les grands érudits sur Paris, souvent, ils ne savent pas voir. Avec lui, il arrive à être les deux.
Quel est votre premier texte ? Quel a été votre premier texte sur Paris ? Parce que ce n'est pas la première fois non plus que vous écrivez sur la ville.
Si, si, c'était l'invention de Paris.
C'était l'invention de Paris.
Oui, j'avais jamais rien écrit avant. J'étais un peu tardif. Mais un jour, Weinstein, dans son émission...
Alain Weinstein.
Alain Weinstein, dans son émission...
Sur France Culture.
Oui, sur France Culture, la nuit, il m'a dit... oui, je comprends. À propos de ce livre, justement. À force d'écrire ceux des autres, on se dit à un moment donné, pourquoi pas les écrire soi-même, quoi.
Manu Farine.
À propos de référence à Éric Hazan, vous dites qu'il vous faudrait en gros 3 ans pour lire l'ensemble des livres de la bibliothèque historique de la ville de
Paris.
Trois vies. Qu'est-ce que j'ai dit ? Trois ans. Oui, pardon, trois vies, bien sûr.
Plein temps.
Pour autant, quels ont été les livres tout à fait indispensables pour vous ? Vous qui ouvrez d'ailleurs le livre avec Walter Benjamin et son livre des passages.
Sur Paris ou sur la Révolution ?
Sur Paris.
Le tableau de Paris de Louis-Sébastien Mercier, qui donne une vision du Paris de la fin du XVIIIe siècle magnifique. Et un peu dans la foulée de Louis-Sébastien Mercier, les livres d'Arlette Farge, comme « Vivre dans la rue à Paris au XVIIIe siècle ». Et puis, à côté de ça, indispensable, « La comédie humaine ». Toutes les scènes de la vie parisienne de la comédie humaine, à la fin, j'arrivais, je crois, à les savoir à peu près par cœur. Parce que c'est tellement, tellement magnifique et tellement riche d'enseignements sur Paris. Et puis Hugo, bien sûr. Les classiques du 19e siècle. Parce que c'est un livre qui est beaucoup sur le 19e. Plus que sur le 20e.
Vous ouvrez votre livre avec Walter Benjamin et son livre des passages. Et c'est assez intéressant parce que vous, Alexandre Lacroix, pour vous, justement, ce livre, on parlera tout à l'heure du vôtre, mais ce livre est un échec sur l'écriture de Paris parce que c'est un livre qui essaye d'embrasser Paris dans sa globalité. Et pour vous, justement, le fait d'embrasser Paris dans sa globalité est donc immédiatement un échec. Pour quelle raison, véritablement ?
Il faut voir comment ce livre se présente. Il est très étrange, le livre de Walter Benjamin. Il a été publié au début des années 80 par les éditions Urcamp et c'est un tissu en fait de citations sur Paris, c'est-à-dire que Walter Benjamin était habité par son sujet, il allait consulter les archives, consulter la Bibliothèque nationale et toutes les citations qui lui plaisaient, il les recopiait et il a fait ça pendant des années, pendant un peu plus d'une dizaine d'années et finalement il n'a jamais vraiment écrit le livre, il a écrit une sorte de présentation de son projet qui était pour obtenir un mécénat, mais enfin une sorte de présentation, un petit texte qui s'appelle Paris capitale du 21e siècle.
19e.
Du 19e siècle, pardon. Paris capitale du 19e siècle, qui est un texte évidemment tellement dense qu'il en devient quasiment incompréhensible. Et puis, le texte de Walter Benjamin, c'est 700 pages de citations mises bout à bout. D'une certaine manière, il a réalisé quasiment le vœu de beaucoup d'écrivains, qui est de construire un livre qui ne serait fait que de citations géniales mises bout à bout. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ce tissu de citations, en même temps, prend sens. C'est-à-dire que quand on le lit, il s'anime sous nos yeux. Donc, sa volonté de construire un Paris total... le livre, tout simplement, il n'existe pas. C'est pour ça que je dis que c'est un échec. Par contre, il a quelque chose de très intéressant, Walter Benjamin, c'est que c'est un marxiste conséquent, et qui cherche à faire donc une histoire matérielle. Et ce qui l'intéresse dans Paris, ce qu'il a vu, c'est se mettre en place les premiers théâtres de la marchandise dans les passages de Paris. C'est pour ça que c'est ça son. Et cette scénographie, ces vitrines, ces lumières, cette manière de présenter la marchandise, tout à fait neuve, au début du 19e siècle, préfigure ce qu'on connaît aujourd'hui sous la forme des grands centres commerciaux ou des malls d'Amérique du Nord. Donc il a vu que là, il y avait eu un tournant de l'histoire du capitalisme central.
Éric Hazan ?
Je pense que ce n'est pas un échec. Je crois qu'il y a une comparaison qu'on pourrait faire en vous entendant, ça m'est venu à l'esprit. Les tableaux de ce peintre allemand des années 40, 30-40, hein, qui s'appelait Kurt Schwitters, qui faisait des tableaux, des collages, comme Benjamin, avec ce qu'il trouvait dans la rue, hein, des petits bouts de tickets de métro, de paquets de cigarettes, des éclats de verre, des bouts de ficelle. Et ces tableaux donnent quelque chose de... Une représentation du réel, qui est peut-être pas totale, mais qui est quand même extrêmement unique et formidable. Et je crois que le livre de Benjamin, c'est ça aussi. C'est un collage qui donne, malgré le désordre, et bien qu'il soit présenté, bien que ses notes soient présentées souvent dans un ordre qui n'est pas celui où il les a prises, mais ça n'a pas d'importance finalement. Ça reste un instrument formidable pour comprendre la ville et en particulier le 19e siècle.
Manu Farine ?
On parlait de passage à l'instant. Hein, la première photographie qui ouvre votre livre, c'est-à-dire bien, même avant le texte, c'est une façade du passage du Caire. Donc après, il y a, je crois, le chantier de l'Opéra et également le théâtre de Belleville. Mais la toute première, c'est le passage du Caire. Quels indices ces trois photographies peuvent donner du récit que vous voulez faire de Paris ? Pourquoi ouvrir avec le passage du Caire ?
C'est une photographie d'Adjaye, donc déjà un des personnages importants du livre. Eugène Adjaye, un grand photographe de la fin 19e, début 20e siècle. Photographe de Paris, on peut le dire. Il a fait autre chose, mais enfin, c'est quand même son œuvre.
Qu'on associe à tort à Proust, hein, dites-vous.
Oui, oui, oui. Il n'était intéressé absolument pas au même quartier que Proust. Il n'a jamais photographié le boulevard Malesherbes, le 17e arrondissement. Il s'intéressait beaucoup plus au quartier du Paris populaire, où Proust ne mettait pas les pieds. Donc vraiment, prendre Adjaye pour illustrer Proust, c'est un contresens. Un contresens. Pas grave, mais un contresens, quoi. Et j'ai oublié le reste de la question.
Alors moi, je vais rebondir dessus, parce que la première édition, c'était sans photographie, sans illustration. Oui. Pourquoi en passer aujourd'hui par l'illustration ?
C'est pas mon idée.
Ouais, parce que je me doutais bien que la première était la version que vous deviez oui. défendre, j'imagine, un Paris sans illustration.
C'est vrai. Je tenais à ce qu'il n'y ait pas d'illustration dans celle-là, autre que les petits croquis que j'ai fait à droite à gauche pour éclairer certains aspects purement topographiques. Et puis là, j'ai des amis au Seuil qui m'ont convaincu que ce serait une bonne idée. Et de fait, il est bien ce livre.
Ah oui, non, c'est pas le problème. Mais pourquoi justement fallait-il qu'il n'y ait pas de photographie dans l'essai que vous aviez écrit en 2002 ?
Peut-être une certaine prétention, un certain snobisme de ma part. Je voulais que ça ressemble à une œuvre un peu écrite, quoi, pour ne pas dire littéraire. Et je me disais qu'en mettant des photos... Mais c'est une erreur parce que, à l'époque, je ne connaissais pas les livres de Sebald, qui sont, on peut dire que ce sont des livres littéraires. C'est parmi les plus grands livres qui étaient publiés dans les années qui nous précèdent. Et il mettait des photos, mais des photos particulières, des photos que lui prenait, des photos qui étaient généralement assez mauvaises, enfin, volontairement mauvaises, volontairement sombres. Pas forcément bien reproduite, même au contraire. Mais la présence de ces photographies donne un contrepoint au texte qui est très saisissant.
Je vais prendre des notes, Alexandre Lacroix.
Oui, j'ai une grande passion pour Sebald, en fait. Donc, mais effectivement, c'est une vraie question. Il a commencé à construire des narrations en inscrivant des petites photos noires et blancs, un peu. Et beaucoup d'auteurs sont tentés aujourd'hui de l'imiter. Ça donne jamais rien. Faut croire qu'il fallait son talent pour le faire.
Manu Farine.
Le premier chapitre de votre livre, Éric Hazan, s'ouvre sur la notion de limite. De limite, oui. De l'épaisseur même, des limites dans la construction parisienne. Qu'est-ce que cette notion-là vous permet de dire de la spécificité de la ville de Paris ?
Je ne sais pas si c'est très spécifique, mais ce qui est amusant, c'est qu'il y a à Paris certaines limites qui sont tranchées quasiment au bistouri, et d'autres qui sont... Il y a des quartiers qui n'ont pas de limites claires. Par exemple, Montparnasse. Ça commence où, Montparnasse ? Pour les agents immobiliers, ça va jusqu'à la Porte d'Orléans. Hein. C'est un quartier, c'est une légende, en fait. C'est pas un quartier. Au contraire, il y a certains endroits. Je sais pas, si vous passez le boulevard Beaumarchais, que vous montez sur les restes de l'enceinte de Charles V, que vous redescendez de l'autre côté, vous passez clairement du Marais au quartier de la Bastille en 10 mètres. C'est tracé de façon, avec une très très grande précision. C'est ça qui m'avait intéressé. C'est que, comment se fait-il que la limite soit tantôt si franche, tantôt si floue, tantôt avec des petits coins qui forment transition. Voilà, c'est ça qui m'avait paru intéressant et c'est par ça que j'ai commencé. Parce que j'ai pas suivi de plan dans ce livre. Non, le plan, il apparaît a posteriori, en fait. Et puis, de toute façon, il est assez bizarroïde, il faut bien dire.
Il n'est pas chronologique.
Il n'est pas chronologique. Il y a des chapitres qui ont à peu près rien à voir les uns avec les autres. Des parties qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc, j'ai pas suivi de plan. J'ai suivi l'idée en partant de celle-ci, sur la limite.
Alexandre Lacroix, vous avez eu le temps, je crois, de regarder le livre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement intéressé ou auquel vous avez été particulièrement attentif?
J'aime beaucoup la version illustrée, je dois dire, du livre. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de voir les images. C'est quelque chose, même s'il n'y a pas d'image dans mon livre, j'ai eu le besoin de voir des images constamment quand je me suis documenté sur Paris. C'est vrai que si on n'a pas les plans, l'évolution, les photos, on a du mal, en tout cas dans un essai, à se représenter les choses. Voilà, et en même temps, je ressens aussi une distance parce que c'est une approche, c'est un essai extrêmement documenté. Et c'est vrai que dans mon cas, j'ai vraiment voulu faire, moi, un roman. Et ce qui m'intéresse,
pour autant, il est extrêmement érudit aussi. Oui, mais c'est pas la même érudition et c'est pas le même en effet travail.
Ce sont les affects, les émotions, les formes de vie, de relations humaines, d'amour que crée Paris qui m'intéressent. Et du coup, c'est-à-dire c'est un peu de petite planète. C'est-à-dire c'est comme regarder une planète depuis une autre planète. Vous voyez le monde objectif de l'essai dans sa perfection et sa documentation, et puis le monde un peu subjectif et voilà, émotionnel du roman. C'est voilà, de petites planètes.
Le rendez-vous. La session.
Alexandre Lacroix, Eric Azan, on vous retrouve dans quelques instants. Tout de suite, l'actualité musicale, Mathieu Conquet.
Avec moins question de topographie que de chronographie ici, puisqu'il est question d'écho et d'hommage avec Michel Ndejiochelo. Ça veut dire libre comme l'oiseau en swahili, Laurent, pour l'info. Michel Ndejiochelo, bassiste, chanteuse, originaire de Washington. C'est une des figures fortes et indépendantes entre soul, hip-hop, jazz aux États-Unis. C'est une musicienne très recherchée. Elle a même joué avec les Rolling Stones. Elle a été nommée plusieurs fois au Grammy Awards, mais elle reste assez farouchement indépendante. Elle est apparue il y a à peu près 20 ans. Elle vient de publier, il y a tout juste 20 ans, puisque c'était en 93, et elle publie un disque hommage cette année, Pour une âme souveraine, qui est dédié à la chanteuse Nina Simone, qui elle disparue il y a presque tout juste 10 ans, ici en France. Un album avec plein d'invités, Liz Wright, Sinead O'Connor. Ce soir, elle est juste avec ses musiciens. Et un disque qui a été salué par le New York Times, l'excellente NPR, qui est la radio publique nationale américaine. On va comprendre pourquoi par le direct. La reprise de Suzanne de Leonard Cohen en direct sur France Culture, Michel Ndejiochelo, Chris Bruce à la guitare, Michael Jérôme à la batterie et Jabin Bruni au clavier en direct sur France Culture. C'est à vous.
Suzanne takes your hand and leads you down to the river. You can hear the boats flow by. You wanna spend the night forever beside her. And you know that she's half crazy. That's why you wanna be there. She feeds you tea and oranges all the way from China. Just when you mean to tell her that you have no love to give her, she gets you on a wavelength and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, you want to travel. Was a sailor and he walked upon
spent a long time watching from his lonely wooden tower. And just when he knew for certain that only a drowning man could see him, he said, all men will be sailors, and the sea shall set you free. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. Travel with him, you wanna travel blind, 'cause you think that you can trust him, 'cause he's touched your perfect eye with his mind, with his mind. And Suzanne takes your hand and leads you down to the river. She's wearing rags and feathers from Salvation Army counters. And the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. She shows you where to look between the garbage and the flowers. The heroes of the seaweed and children in the morning leaning out for love, and they'll lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, you wanna travel blind, 'cause you think that you can trust her, 'cause she's touched your perfect body with her mind.
Michel DJ Ocello en direct sur France Culture. Elle sera en concert en France pour une date unique, le 13 avril, en banlieue bleue en France. Son album est paru sous le label Naïve. On la retrouve tout à l'heure pour une autre session qui sera elle aussi filmée.
Plateau au centre avec vous, Alexandre Lacroix, et toujours avec Eric Azan. Alexandre Lacroix, essayiste, romancier, professeur de littérature, rédacteur en chef du magazine, philosophie magazine, non, pas la session, rien du tout, on n'appuie pas en cabine, merci. Vous signez Voyage au centre de Paris, chez Flammarion, c'est des doigts qui glissent quelquefois, de Saint-Pierre peut-être. Huitième roman, donc, chez Flammarion, qui se lit comme une visite érudite et sentimentale de Paris. Le narrateur ouvre sur le jardin du Luxembourg, rive gauche, pour achever plus de 300 pages plus loin, dans un studio 5e étage au 7 de la rue Charles-François-Dupuis. c'est Rive droite. Bref, c'est tout un itinéraire qui construit un roman géographique érudit et un voyage amoureux, puisque le narrateur ne cesse de s'adresser à sa fiancée Jeanne pour lui déclarer l'amour qu'il porte à sa ville. Est-ce que vous aviez, et c'est le sentiment qu'on a pendant tout le texte, nécessairement besoin d'une fiction, ou presque d'une autofiction amoureuse, pour parler de Paris et d'en révéler ses secrets, d'y poser vos remarques, Alexandre Lacroix? Est-ce que c'était vraiment dès le départ le projet romanesque?
Ah oui, ça me semble vraiment indispensable. J'insiste, c'est un roman. Et ce qui est un peu étonnant, c'est que c'est un roman géographique. C'est-à-dire que quand on veut parler de Paris, un problème qui se pose, c'est l'immensité du matériel. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une documentation, des livres, et puis il y a un matériel émotif. Il y a des expériences qu'on a faites en le visitant, ce Paris, en allant explorer ses recoins, ses catacombes, ses toits, etc. Donc, moi, depuis longtemps, je voulais écrire un livre sur Paris. J'ai aussi une relation difficile avec Paris. Je pense que c'est le cas de beaucoup des Français.
Ça commence
des Français.
Ça s'ouvre là-dessus.
Mais oui, parce que je crois que beaucoup des Français sont dans une situation d'ambivalence vis-à-vis de Paris. À la fois, on aime Paris, on y retourne souvent, on y va travailler. On ne se sent pas de Paris. Quand on demande à quelqu'un dans la rue à Paris, mais vous venez d'où? Il va vous dire, moi, je viens de Ruffec, je viens d'Argentan, j'ai des origines en Espagne. On ne sent pas qu'on a pris racine, vraiment, ici. On ne peut pas se passer de Paris, mais on veut toujours le fuir quand on y est. Les relations humaines, ils sont difficiles. Et il règne à Paris un climat émotionnel que je trouve particulièrement intéressant, que moi j'appelle un peu le cafard parisien. Il y a quelque chose qui peut vous enfermer, vous engoncer, vous prendre, qui est un peu la grisaille parisienne. Donc je reviens à votre question initiale. Comment parler de tout ça? De ces expériences, de ces affects, de ces émotions, et en même temps de cette documentation protéiforme immense sur Paris. Moi, j'ai trouvé la solution en fait en lisant un livre qui m'a beaucoup plu d'un écrivain italien qui s'appelle Claudio Magris, qui s'appelle Danube. Mmh. Et alors, son héros part de la source du Danube, il fait 3000 km, il va jusqu'à la mer Noire, et il raconte toute l'histoire de la Mitteilung Europa. Et je me suis dit, mais voilà un dispositif narratif, une histoire qui est parfaite, mais à Paris, on peut réduire le parcours. Pas besoin de faire 3000 km, on peut en faire 6 ou 7 et prendre un héros. Donc c'est le cas. Le héros, c'est pas moi. Vous avez dit autobiographique, il est très différent de moi.
Non, pas autobiographique, au bord de l'autofiction.
Bon, mais.
Il est malé sur les toits comme vous, quand même.
Bon, je lui prête quelques souvenirs, comme on fait toujours avec ces personnages.
J'espère bien, oui.
mais effectivement, il fait une balade que n'importe qui peut faire en 1h30 et ses souvenirs personnels, ses émotions de la ville se mélangent à des connaissances qu'il a de la ville. Voilà.
Alors, le roman suit un itinéraire, donc une dramaturgie. Au centre, si on compte les pages, il y a le passage de la rive gauche à la rive droite. Il y a aussi des chapitres en miroir. Celui sur les catacombes, qui de façon quasi symétrique joue avec le chapitre sur les toits de Paris. Et puis même au niveau des motifs, je pense par exemple aux esprits. Les égrégores, page 40, trouvent un écho avec le Baphomet, page 364. Qu'est-ce que vous aviez envie de signifier de Paris par un tel dispositif géométrique ?
Vous avez vraiment lu très attentivement.
C'est mon travail.
Formidable. Effectivement, il y a des lieux dans Paris, c'est-à-dire que mon personnage évolue à la surface, hein, sur le trottoir, mais il y a des lieux qui m'ont beaucoup intéressé. Vous avez parlé des catacombes. Moi, j'y suis allé, et j'y suis allé lors d'une fête très très étrange. Vous savez que dans les catacombes, les gens qui vont dans les catacombes s'appellent des cataphiles, et ils ont un saint patron, quelqu'un dont on ne sait pas s'il existait vraiment, qui s'appelle Philibert Asper, qui aurait été portier au Val-de-Grâce, qui serait parti voler des bouteilles pendant le trouble révolutionnaire le 3 novembre 1793, voler des bouteilles dans le couvent des Chartreux à côté, qui aurait disparu là, qui serait mort. Et tous les 3 novembre, il y a une grande fête dans les catacombes. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai vu la fête du 3 novembre 1993, donc pour le bicentenaire, c'est la fête que je raconte dans le livre. Mmh. Et par ailleurs, au-dessus de la surface, il y a des lieux qui... D'ailleurs, les catacombes, c'est un peu étouffant quand même. C'est un peu...
C'est le principe.
Il y a de la bouille. Et c'est pas des lieux physiquement où on se sent très bien, en tout cas dans mon cas. Et il y a des lieux fantastiques que j'ai explorés avec plus de plaisir et plus de constance aussi, qui sont les toits. Et du coup, on parle beaucoup des cataphiles, mais moi, je me sens plutôt toituriste. Hein, c'est-à-dire, les toituristes, ce sont ceux qui vont se promener sur les toits de Paris. Et je l'ai fait pendant des années, de manière très régulière, très concertée, quartier par quartier, monument par monument. Et j'en parle également. Donc voilà, c'est pas de la géométrie que je fais là. C'est vraiment une manière, si vous voulez, de raconter la ville et de prendre un point de vue autrement sur la ville. Dans les catacombes, c'est la clandestinité, le marché noir, plein de choses s'y déroulent. Sur les toits, c'est le ciel, le dégagement, l'horizon, la métaphysique en fait.
Alors,
et par ailleurs, vous les placez de manière quand même assez symétrique dans le livre. Et au centre du livre, il y a le passage d'une rive à l'autre. Et au centre de Paris, il y a pour vous, ou pour votre narrateur, le jardin du Palais Royal, le néant. C'est-à-dire
un néant paradoxal.
Oui, c'est un néant paradoxal. Alors ça, c'est très bien écrit. Vous me demandiez ce qui me plaisait dans le livre d'Éric Hazan. Mais ouais. C'est très bien décrit dans le livre d'Éric Hazan, ça, l'animation que ça a été. C'est-à-dire, c'était le lieu des tripots, des restaurants...
Des centres du monde.
Des centres du monde, le Palais Royal. Quand on y va aujourd'hui, donc dans ces jardins qui sont vraiment l'hypercentre de Paris, le nombril de la ville, c'est une des villes les plus connues du monde, Paris. On est au centre et il n'y a rien. Il y a une pelouse taillée à la française et rien. Et j'ai mis des années, j'y suis passé, je ne sais pas, des centaines de fois, et j'ai mis des années à me rendre compte qu'il y avait un seul truc intéressant à raconter. Il y avait le petit canon du Palais Royal. Alors, le petit canon du Palais Royal, c'est un petit canon qu'avait installé un horloger qui tirait à midi, au début du 19e siècle, un coup pour signaler aux habitants du quartier qu'il était midi. Et il sonne encore aujourd'hui, après 70 ans d'interruption qui ont suivi la Première Guerre mondiale. Donc, à part le petit canon du Palais Royal, vous êtes dans une sorte de néant paradoxal au centre de la ville, comme si au moment où on s'approchait de Dieu, on s'apercevait, et c'est bien normal, qu'il n'existe pas.
Ne dites pas ça, Mathieu Conquis, il va s'effondrer. Éric Hazan, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez aussi remarqué dans ce roman? Vous avez eu le temps, j'essaie d'y jeter un œil et d'y avoir quelques repères.
Ça m'a bien plu. Ça a beaucoup de charme, cette promenade érudite et poétique. Je dirais quelque chose qui n'a rien à voir avec un jugement par rapport au livre, qui est un sentiment tout à fait personnel. Ce Paris que décrit ce livre, ce Paris à l'intérieur de l'enceinte de Louis XIV.
Au centre de Paris.
Au centre de Paris, ça ne m'intéresse plus. C'est pas que le livre m'a pas intéressé.
Non, le livre est très intéressant.
Mais ce Paris-là que raconte ce livre, je n'y vais plus. Je trouve que le processus de glaciation, qui était déjà un peu annoncé dans l'invention de Paris, s'est extrêmement durci durant les 10 dernières années. Et aujourd'hui, c'est un Paris pour touristes et magasins de luxe. Il reste les vieilles pierres. Les vieilles pierres sont formidables. Mais, il me semble que je les connais par cœur. Je ne vais plus là que si j'ai quelque chose à y faire. Je ne vais jamais plus m'y promener. C'est plus mon Paris, voilà.
On a l'impression d'ailleurs que c'est revendiqué cette dimension par votre roman Alexandre Lacroix. Par exemple, les premières références sont anglo-saxonnes, notamment Hemingway avec son récit nostalgique « Paris est une fête ». Puis on a le sentiment qu'écrire donc sur Paris, ça doit en passer par là. La nostalgie, Paris, ville littéraire. Et même, ce serait pour vous le moyen d'aller contre la doxa qui voit Paris se muséifier. Et quand je dis d'aller contre, c'est-à-dire donc d'aller tout contre en revendiquant que le mieux à faire, ce serait, et je vous cite, alors même que vous ne parlez pas de ce projet-là précisément, mais vous parlez d'autre chose, et ça pourrait s'accorder à ce projet, conserver Paris précieusement dans son écrin pour les générations futures. Alors même qu'on déplore que Paris devienne musée, vous-même, vous en revendiquez cette formalisation.
Alors là, il faut que j'étende un petit peu. C'est pas spécialement... Il y a aussi une différence. Hein. C'est-à-dire, je disais que le livre d'Éric Hazan est clairement un essai, le mien est clairement un roman. C'est un essai engagé. C'est un roman dégagé. C'est-à-dire, je ne soutiens pas spécialement de thèse. Il y a un chapitre sur l'urbanisme, néanmoins. Et il me semble... Alors, l'urbanisme, c'est une grande question aujourd'hui, puisque plus de la moitié de l'humanité vit en ville. On va passer d'ici 2050, selon toute probabilité, à 75% de l'humanité. Donc, on va au-devant d'une immense crise de la condition urbaine. Quels sont les types de villes, du coup, dans lesquelles on va choisir de vivre, puisqu'on doit vivre en ville? C'est presque devenu une obligation. Il y a plusieurs choix. Il y a les villes un peu tentaculaires, Standard City, Banalopolis, les villes qui s'étendent comme ça dans les zones urbaines. C'est un choix qu'a fait un écrivain comme Peter Handke, par exemple, qui a décrit dans Mon année dans la bête personne cette banlieue qui s'étend, cette banlieue pavillonnaire autour de Paris et ses forêts. Pourquoi pas? Il y a les villes champignons, il y a les villes qui ont encore un maximum d'énergie, je vais dire les villes asiatiques. On peut aller les explorer, essayer de s'en rapprocher, d'y vivre. Et puis, sur le vieux sol européen, on a ces centres-villes qui se muséifient et qui sont entrés dans une phase de préservation et de conservation. Même si à Paris, il y a quand même eu des gestes...
Mais ça serait même un projet du XXIe siècle, justement, cette dimension.
Ce que je veux dire, c'est que... ce que je veux dire par là, c'est qu'on pourrait presque faire de l'écologie urbaine. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, ces centres-villes dans lesquels se sont empilés 2000 ans d'histoire, ils sont peu nombreux dans le monde, ça couvre quelques hectares dans le monde. Aujourd'hui, les villes qui se construisent n'ont pas de centre, elles se construisent sur des modèles urbains de type Los Angeles, c'est des tentacules qui s'étendent le long des autoroutes, des grands axes. Et ces centres-villes, ces quelques hectares sur la planète où il y a 2000 ans d'histoire empilés, eh bien finalement, on est presque... Mais c'est intéressant ce que dit Eric Hazan. On est presque tenté de les préserver pour les léguer aux générations futures. C'est une réflexion que se fait à un moment de mon narrateur. Tiens, et si finalement la meilleure chose à faire, c'était pas de les léguer au futur? Et mais c'est simplement une réflexion qu'il se fait, ce n'est pas une thèse que je soutiens absolument, puisque par ailleurs, effectivement, la gentrification est étouffante, et le prix de l'immobilier plus le prix de la bière fait qu'il se vit beaucoup moins de choses émoustillantes dans l'hypercentre de Paris qu'il y a 20 ou 30 ans, ou même 100.
Et donc dans votre livre, il y a de nombreuses références, et notamment Ivan Steglov, plus connu sous le nom de Gilles Yvain, et surtout son ouvrage « Formulaire pour un urbanisme nouveau ». En quoi vous vous retrouvez dans cette approche psychogéographique de Steglov?
Oh ben ça contient le livre d'une certaine manière. La dérive psychogéographique, c'était un concept de Gilles Yvain qui n'est pas très connu, mais qui a été un peu le compagnon d'aventure de Guy Debord pendant quelques temps. Et la dérive psychogéographique consiste en fait à choisir une période de temps donnée, choisir en général un lieu, mais en général une ville, avoir un projet artistique, et puis se perdre, être ouvert à toutes les sollicitations de la ville. C'est intéressant parce que quand ils font des dérives psychogéographiques, les situationnistes, on est au début des années 50, et à Paris, dans le quartier de la Huchette, il y a encore des dangers, il y a encore des... Voilà. Et donc, ils font des dérives où ils se livrent à toute forme de beuverie, d'aventure, et finalement... Je trouve ça intéressant, ce concept. C'est difficile de vivre une dérive psychogéographique dans le centre de Paris. Elle sera plus douce et plus méditative que les dérives psychogéographiques un peu excessives des situationnistes. Mais pourtant, moi, c'est bien ce que mon personnage essaye de faire.
Dernière question. À 24 ans, vous avez quitté Paris justement pour pouvoir écrire. Vous ne pouvez pas écrire à Paris ?
Quand je parlais de rapport amour-haine, ouais. C'est vrai. C'est-à-dire qu'après les études, je suis parti vivre à la campagne. J'y suis resté 7 ans. Et c'est seulement quand j'ai eu la proposition de créer Philosophie Magazine que j'y suis revenu. Sinon, je serais resté à la campagne, je pense.
Le rendez-vous, la session.
La session, Mathieu Conquet.
On retourne du côté de la musique et de Nina Simone avec Michel Ndegeocello, cette fois-ci pour Don't Let Me Be Misunderstood. C'est le titre de 64 avec plusieurs significations que je vous laisse explorer en direct sur France Culture. Michel, c'est à vous.
You see, I'm mad. No one can always be an angel. Sometimes you see some bad. 'Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes I feel so carefree, with a joy that's hard to hide. Sometimes all I know is worry. Then you're bound to see my other side. 'Cause I'm just a soul whose intentions are good. Thank you.
everyone. Afraid I'll waste my life with worry about some foolish thing I've said or done. 'Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. So I'm just a soul whose intentions are good.
Michel Didier-Auchello en direct sur France Culture. Elle sera en concert en France le 13 avril à Épinay dans le cadre du festival Banlieue Bleue. Son album Pour une âme souveraine est paru sous le label Naïve.
Petit problème.
Non, c'est pas grave, on dit au revoir en direct.
Oui, on va dire au revoir à nos invités. Alexandre Lacroix, merci. Donc, Voyage au centre de Paris, c'est paru chez Flammarion, Eric Hazan. L'invention de Paris, il n'y a pas de pas perdu. La réédition illustrée, c'est au seuil. Et puis, Une révolution française, on n'a même pas eu le temps d'y arriver, est disponible aux éditions de La Fabrique. Ça, c'était pour aujourd'hui. Et demain ?
J'essaye de voir en quoi ils sont des grandes représentations collectives, rappelant donc par là même ce qu'était le mythe autrefois, et en quoi, malgré tout, ces représentations collectives sont bien de notre temps, sont produites par notre société et par notre histoire. C'est cela.
On va tenter d'élucider ce que disait Roland Barthes demain avec le peintre Philippe Cognier et le romancier Pierre Patrolin.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Laguen, Manou Farine, Mathieu Conquet, Xavier Martinet, Claire Maillot et Issa Twendoy. C'est son filmé par Maurice Lévy. À la technique ce soir, Alexandre Dang et Ariane Herbé. Réalisation Thomas Beau.
Il est 19h55, vous écoutez France Culture, c'est bien. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec les grandes lectures de France Culture sur un petit format. Et ce soir, André Dussolier lit La géométrie dans l'impossible de Jacques Stenberg. Alors, bonne soirée à tous.